DPK Prod, du son à votre image. www.dpkprod.eu.
Audio de bord. Voyagez sans quitter votre fauteuil. Un podcast immersif. Produit par DPK Prod.
J'espère que ça gazouille ce matin, je me dépêche parce que j'ai un train à prendre, il va pas m'attendre lui. Ce matin, je vous emmène à Grenoble pour faire la connaissance de Colline. Elle est aveugle et elle écrit des livres. Et aujourd'hui, elle sort la prévente de son troisième opus. Allez, suivez-moi, je vous emmène.
Chanteur, chanteuse, podcasteur, youtubeur, radio, web radio, entreprise. Besoin d'un prestataire dans le domaine du son? Musique d'attente, répondeur personnalisé, générique, liner, jingle, composition originale ou cover, reportage immersif. www.dpkprod.eu.
Gare de Saint-Marcellin, voie B. Le TER 855111 s'apprête à partir. Aujourd'hui, c'est lundi. Et comme tous les lundis, je rends visite à ma petite mamie, Nicole, alias Colline pour les intimes.
Mesdames, messieurs, bienvenue à bord du TER Auvergne-Rhône-Alpes à destination de Grenoble. Il desservira Vinay, Colliena, Tulin-Fur, Moirans-la-Galissette,
Nicole, c'est une dame aveugle. Elle a fait appel à moi pour que je l'aide à utiliser son nouvel ordinateur. Alors tous les lundis, je me rends sur Grenoble et on passe 2 heures ensemble afin qu'elle puisse prendre en main sa nouvelle machine. Aujourd'hui, c'est un lundi un peu particulier pour elle. Et j'ai vraiment très envie de vous montrer pourquoi. Après 40 minutes de train, 2 minutes de tramway et 15 minutes de marche, me voici enfin arrivé en bas de son immeuble. Bonjour, bonjour.
Salut,
ça va?
Ça va et toi?
Ouais.
Avec le soleil?
Ouais, là aujourd'hui ça fait plaisir.
Elle n'est pas là aujourd'hui.
Ah, elle n'est pas là, moi je m'en vais alors.
Elle n'est pas là.
Dommage. C'est bien dommage. Hop.
Voilà. Vestiaire.
Vestiaire arrive.
Vestiaire.
Mais j'ai jamais de
petite pièce. Oh, le hôtel. Tu veux une petite pièce? Attends. Tiens.
Oh non, non. Voilà. Moi, j'ai les deux, c'est moche.
Ah bah, c'est, tu veux une petite pièce? T'es une petite pièce.
Une petite pièce. 10 centimes un peu.
Ouais. Alors, Colline, on est aujourd'hui ici avec toi à Grenoble. Est-ce que Juste en préambule, tu peux nous parler un petit peu de toi. Me dire d'où tu viens et bah, qui tu es, ce que tu fais un petit peu, dans ce que tu as fait dans ta longue vie.
Bon, alors, moi je suis née à Grenoble, ouais. Il y a déjà un petit nombre d'années. Et ouais. Voilà, j'ai eu une enfance heureuse, avec des parents sympathiques, ouvriers, mais très, très généreux, très compréhensifs. Et de plus, j'étais fille unique, donc j'étais un peu l'unique objet de leurs préoccupations. Ouais. Donc je ne me plains pas du tout de mon enfance. Et par contre, mon adolescence a été un peu perturbée par le fait que ma vue a commencé à se dégrader. Sauf okay. que, à l'époque, je ne me rendais pas compte de ce que c'était. Je sentais une gêne.
Merci, Pierre.
Surtout la nuit. Ouais. Quand il faisait sombre. Et là, j'ai pas su mettre un nom sur ce qui m'arrivait. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai été un petit peu contrariée, un petit peu perturbée. J'ai quand même pu faire des études ordinaires, mais avec quand même des difficultés de lecture. Voilà.
Et alors, quel type d'études t'as fait, du coup ?
Donc, j'ai fait des études au lycée des Eaux-Claires, des études à l'époque, ça s'appelait des études modernes, c'est-à-dire de maths, okay. jusqu'au bac, voilà. Et ensuite, j'ai fait des études j'ai fait un BTS de secrétariat, et je suis devenue secrétaire du directeur d'Alpexpo à l'époque.
C'est long ?
Ah oui, c'était bien, c'est un métier qui m'a plu. Ouais. Sauf, j'ai travaillé dans une bonne ambiance, sauf que ma vue a continué à se dégrader. J'ai eu tellement peur de perdre mon travail que j'ai travaillé avec beaucoup de difficultés, de plus en plus de difficultés. J'arrivais plus tellement à déchiffrer les documents que je devais taper à la machine. Et puis un jour, carrément, le gros problème, c'est-à-dire que je suis partie en réunion avec mon patron, il m'a emmenée en réunion. Et c'était dans une salle sombre, et carrément j'ai bugué, quoi. J'ai pas pu relire mes notes devant l'assemblée. Ouais. Et là ça a été, pour moi, ça a été le début de la fin. En sortant de cette réunion, j'ai éclaté en sanglots, et j'ai été obligée d'en parler à ma direction.
Et alors, est-ce que tu l'as perdu, ton travail ?
Alors, je l'ai pas vraiment perdu, parce que il y avait là un commissaire de foire, d'automne, qui était sympathique et qui m'aimait bien, et qui m'a consolé en me disant: mais pourquoi tu t'essayerais pas de faire autre chose qui demanderait moins, qui ferait moins appel à la vue, et pourquoi pas kinésithérapeute.
Ok.
Alors ça c'est une idée qui m'avait même pas effleuré, quoi. Mais en y réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas, sauf que ça faisait encore 4 ans d'études. J'avais presque une trentaine d'années. Pas tout à fait, mais bon, j'étais déjà plus en âge où on fait des études ordinaires.
Donc du coup, tu as entrepris de faire quand même cette formation de kiné.
Voilà, donc quand l'idée s'est faite jour, j'ai voulu tout de suite commencer. Sauf que à l'école de Lyon, c'était trop tard pour l'inscription, et je pouvais m'inscrire qu'à Paris. Okay. Et pour moi, partir à Paris, avec ma mauvaise vue, sans connaître personne, avec le souci que mes parents se faisaient pour moi, ça a été compliqué de décider de partir là-bas toute seule. Et puis, comme quoi, il ne faut jamais désespérer de la vie, la chance a fait que je rencontre mon deuxième mari.
Pierre.
Qui nous a servi de café. et qui, lui, venait d'aménager à Paris. Il avait quitté Grenoble et il avait aménagé à Paris pour son travail, un nouveau travail. Et donc, je suis partie avec lui à Paris. Donc, j'ai pas eu à chercher d'appartement. Ouais. Il m'a tout servi sur un plateau.
T'en as de la chance.
Voilà.
Alors, du coup, t'as fait tes études de kiné, tu as eu ton diplôme, tu t'es installée en libéral.
C'est ça.
Et donc, à ce moment-là, tu avais encore un reste visuel, ou t'avais déjà tout perdu ?
Non, j'avais encore un reste visuel. Pendant plusieurs années, j'ai fait avec les patients comme si j'avais aucun problème. Sauf que j'étais toujours mal, parce qu'il m'est arrivé plein de mésaventures. Mmh. Et jusqu'au jour où je me suis dit, eh ben, il faut que je le dise, il faut que j'en parle maintenant. Mmh. Mais c'était jamais le bon moment, quoi. J'ai toujours une excuse, parce que pour moi, c'était trop compliqué d'avouer que j'avais ce handicap. J'avais peur aussi, c'est pareil, j'avais peur de perdre ma clientèle. La première fois, j'avais peur de perdre mon boulot à l'Pexpo. Deuxième fois, j'avais peur de perdre ma clientèle.
Ouais.
Et puis un jour, ça s'est fait. Ça s'est fait, quoi. Il y a une patiente qui est venue en rééducation, qui venait pour sa cheville, d'ailleurs, et elle me dit, vous voulez pas regarder dans mon dos, j'ai un grain de beauté, j'ai un peu peur, vous pouvez pas me dire comment il est. Ouais. Et là, je me suis dit, eh ben c'est l'occasion.
Le moment.
C'est le moment, ouais. C'est l'occasion. Ouais. Et je lui dis, non, madame, je vois pas le grain de beauté. Ouais. Comment, vous le voyez pas? Mais moi, je sais bien qu'il est là. Je lui dis, non, mais je dis pas qu'il est pas là, je dis que moi, je ne le vois pas.
Ouais.
Ah bon? Pas plus que ça, la réaction. Ah bon? Bon. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à accepter.
Ouais.
Surtout quand cette dame est revenue deux jours après, et qu'elle s'est même plus rappelée que je lui avais dit que je ne voyais pas. Donc elle m'a tendu son ordonnance en me disant, regardez comme ils écrivent mal les médecins, vous ne pouvez pas me la lire.
Ouais,
donc je lui dis, mais elle, ça ne l'a pas du tout perturbée, quoi. Elle est revenue, elle s'en fout que je ne vois pas. Et à partir de ce moment-là, je l'ai dit à tout le monde.
Et alors, à quel moment, justement, t'as vu, elle disparaît totalement?
Peut-être vers 40 ans, je voyais encore un petit peu. 40, 45 ans, je peux pas dire exactement, puisque... Voilà.
Ouais.
40, ouais.
Mais vraiment, où ta vue n'était plus utile?
Après, ma vue n'était plus utile.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Et là, tu as continué à faire de la consultation, à donner des consultations
pareil,
de kiné?
J'ai rien changé du tout.
Ok.
Rien changé du tout, sauf que j'ai entamé une psychothérapie,
ouais,
qui m'a beaucoup aidée à m'accepter telle que j'étais.
Mmh.
Et après, je suis aussi allée à Marly-le-Roi,
ouais,
faire le stage pour
l'autonomie.
Okay. Voilà, sans la vue. Et puis, et à la suite de tout ça, je me suis sentie beaucoup mieux, quoi. Je me suis acceptée.
Mmh.
Et à partir du moment où... Enfin, on sait bien qu'à partir du moment où on s'accepte, où on s'aime, en fait...
Ouais.
On s'accepte.
Les choses changent.
Les choses changent et les gens, on s'aperçoit que les gens nous acceptent tel qu'on est. Au contraire, même, ça a été beaucoup plus facile après pour moi que cette triche, quoi, permanente.
Mmh. Mmh. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur ton parcours, tu t'es lancé dans une aventure qui est quand même assez cool. Et
oui.
Je voulais que tu nous en parles aujourd'hui.
Mmh.
C'est justement l'écriture.
Voilà.
L'écriture de romans.
Voilà.
Alors, ton premier roman, tu l'as écrit il y a combien de temps?
Alors, mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 58 ans.
Okay.
C'est à partir du moment où j'ai pris ma retraite.
Ouais.
Alors, j'avais commencé à écrire des petites nouvelles pendant que je travaillais. Seulement, un kiné, ça travaille 10 heures par jour.
Ouais.
Donc, c'était des petites nouvelles courtes. Et à la retraite, j'ai voulu écrire. J'ai voulu partager, mais... Enfin, partager, je sais pas. En fait, je l'ai écrit un peu pour moi au départ.
Ouais.
Parce que j'ai voulu écrire tous mes souvenirs, toutes les petites anecdotes croustillantes qui m'étaient arrivées pendant ma carrière de kiné perdant la vue.
Ouais.
Voilà. Et comme il m'était arrivé pas mal, je les ai vite écrites pendant que je les avais en tête.
Mmh.
Et puis finalement, ce livre, il a été publié. Et il s'appelle « Parle que je te vois » aux éditions Alzieux, au Fontanil.
Donc Fontanil ici, hein, dans le 38.
Dans le 38, voilà.
Ouais, côté de Grenoble.
Ensuite, j'ai pris le goût de l'écriture et j'ai continué le deuxième roman qui s'appelle Comme les gommiers blancs. C'est une histoire de cohabitation entre cinq femmes d'âge mûr qui se sont rassemblées pour vieillir le mieux possible ensemble.
Mmh.
Voilà. C'est une chronique un peu douce amère de la vieillesse, quoi. Celui-là a été publié chez Sidney Laurent. Et puis le troisième qui est sorti, là, qui est en vente depuis le 11 avril. Alors cette fois, c'est un livre qui pourrait paraître plus noir, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'appelle « Pandémie en vue ».
Tiens.
Donc, jeu de mots, pandémie qui pourrait bien arriver, et puis en vue, on parle de vision, voilà.
Et alors, justement, la petite anecdote par rapport à l'écriture de ce livre, c'est qu'on ne peut pas potentiellement dire que c'était une sorte de prévision ou de prémonition, mais effectivement, ce bouquin-là, enfin, cette nouvelle, ce roman-là, tu l'as Tu as commencé à l'écrire avant cette fameuse pandémie.
Exactement. J'ai commencé à peu près un an et demi avant. Et ensuite, la pandémie est arrivée. Et donc là, ça m'a coupé les ailes, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, non. Et en fait, cette pandémie, finalement, je m'aperçois maintenant qu'elle m'a à la fois aidée et desservie. Desservie parce que tout le monde parlait plus que de pandémie, alors que je pensais avoir trouvé un sujet, un sujet assez original.
Alors, grossièrement, le résumé de ce livre, c'est quoi, ça ?
Eh bien, c'est une pandémie qui commence dans le sud-est, ça commence à Grenoble, d'ailleurs. Et petit à petit, les gens perdent la vue, les uns après les autres, ou par petits groupes, sans qu'il y ait de raison apparente. C'est-à-dire, on ne trouve pas de virus, rien ne peut dire pourquoi les gens perdent la vue. Et peu à peu, voilà, la pandémie va s'étendre, elle va gagner plusieurs pays, les gens perdent de plus en plus la vue, jusqu'à toucher une majorité de la population. Donc la vie économique va changer, enfin tout va changer évidemment, et voilà. Et je pense que ça peut être intéressant parce que ça peut faire connaître le monde de la cécité à un grand nombre de lecteurs. En fait, j'ai choisi une petite galerie de personnages qui sont des personnes qui voient clair au départ. Et ces gens, cette galerie de personnages, on la garde jusqu'à la fin et on voit ce qui se passe pour eux quand ils deviennent aveugles. En fait, je pense que chacun peut se mettre à la place d'un des personnages. Mmh. Voilà, il peut se comporter comme Louis le notaire qui a perdu son rôle de chef d'entreprise, qui est plus capable d'assumer, mais qui va rebondir dans le bon sens. Il y a Eric qui est un soigneur dans un zoo, qui va tenter aussi après de retourner dans la cage au lion, c'est le cas de le dire, avec beaucoup de difficultés. Il y a une cardiologue aussi qui perd la vue parce que d'un seul coup, sa voiture, elle a un accident de voiture du fait qu'elle perd la vue d'un seul coup. Et je pense que chacun va pouvoir se trouver devant une situation qu'il n'a même pas envisagée.
Pour finir, est-ce que tu as un autre livre en préparation ? Un autre roman ?
Alors, pour le moment, non.
Non,
mais... Pour le moment, non. Évidemment que j'y pense.
Ouais.
Donc, avec une amie que tu connais. Ça y est, Liane Zampèze, on a commencé une pièce de théâtre qui va être très très rigolote, de deux vieilles aveugles qui habitent ensemble.
D'accord.
Et qui racontent, qui mettent en scène leur vie quotidienne avec tout ce que ça comporte, quoi, comme quiproquo, comme...
Complètement.
Comme, voilà.
Super.
Et voilà, on se voit toutes les semaines et toutes les semaines, on écrit une scène.
Super. Merci beaucoup, Colline.
Et bien, c'est moi qui te remercie, Manu.
Un taxi le dépose en bas de sa garçonnière. Dans le coquet studio, Louis écoute l'affreuse montre parlante plaquée sur son poignet à la place de la superbe Rolex diamantée. 17h30. La femme inconnue recrutée sur un site internet ne va pas tarder à arriver. Le notaire l'attend avec la bienveillance que dispense son troisième whisky. Des glaçons babillent à propos hachés et menus dans le verre. Qui est-elle ? Quel visage ? Quelle allure ? Quel parfum, quelle voix, quelle démarche ? Autant de questions qui lui traversent l'esprit. Ce sera la première fois que le regard ne précédera pas les mains. L'expérience sexuelle promet d'être excitante. Bonne ou mauvaise, pile ou face, d'ici quelques minutes, si l'inconnu se pointe à l'heure, il sera fixé. Des pas qui résonnent sur le palier, puis des coups discrets contre la porte de la garçonnière. « Entrez !» dit-il en forçant la voix, sans bouger du confortable fauteuil, sans retirer les pieds de la table basse. Il avait décidé de l'appeler Madame X. Elle pousse la porte. Il attend le souffle court. Trois ou quatre bruits de chaussures sur le parquet, puis plus rien ne bouge. Que fait-elle ? Bonjour, dit-il dans le but de recueillir des informations sonores susceptibles de situer l'inconnu. Toujours le silence. Alors, le cœur de Louis se met à battre fort dans sa cage de côte. Son esprit embrumé par l'alcool commence à imaginer un scénario différent de celui envisagé. Un mauvais scénario. Il est là, posé dans son fauteuil, sans yeux, sans défense. Et tout à coup, la panique. Qui est en train de le percer de son regard? Une femme ou un homme? La prostituée inoffensive? Ou quelqu'un dont il doit se méfier? Les arnaques sur Internet sont bien connues. Pourquoi elle ou il se tait? Bonjour, répète le notaire avec la hargne qu'engendre parfois le paroxysme de la peur. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Louis. Et vous? Nouvel interminable espace de silence. Alors le lion perd de la superbe. Il devient proie et la biche se fait prédatrice. Qui êtes-vous? Répondez, bon Dieu! Des pas qui se rapprochent et soudain deux mains glacées sur son cou. Le cri de Louis reste coincé dans sa gorge serrée.
Quel voyage, me voici de retour dans ma petite ville Saint-Marcellin. À l'instant, c'était Marie qui vient de nous interpréter un petit extrait de Pandémie en vue. Pandémie en vue, il a été mis en pré-vente sur un site de cagnotte participative. Alors le concept, c'est vraiment comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres plateformes, c'est-à-dire que vous allez sur ce site, simplycrowd.com/produit/pandémie-en-vue. Et puis là-dessus, eh bien, vous avez la possibilité d'investir dans cette petite cagnotte jusqu'à maximum hauteur de mémoire 990 euros. Et à partir de 990 euros, le livre pourra être édité et distribué. Et ce qui est très important là-dedans à savoir, c'est que, en gros, hein, comme ça de mémoire, le livre papier est à 19 euros et des brouettes. Ça fait à peu près 50 livres à vendre. Sur ces 50 livres à vendre, malheureusement, Colline ne touchera aucun droit d'auteur. Et en fait, c'est un petit peu ça le principe, c'est que les 50 premières commandes permettent de financer l'édition du livre. Donc on a besoin de vous, Colline a besoin de vous. N'hésitez pas à partager, surtout autour de vous, à participer aussi à cette cagnotte. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter un livre à 19 euros. Vous pouvez acheter la version à 12 euros qui est en EPUB, qui est en numérique, ou tout simplement, vous pouvez faire un petit don à hauteur de vos moyens. C'est tout à fait possible, sans contrepartie. Pour finir, je vous rappelle l'URL, l'adresse internet, hein, pour vous précommander Pandémie en vue, donc www.simplycrowd.com/produit/pandémie-en-vue. Et voilà, vous vous retrouvez directement sur la petite page dédiée. Vous participez à ce projet. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas, dans un nouvel épisode. C'était Manu.
Pour prendre contact, par WhatsApp, 06 20 59 38 97. Par Instagram et Twitter, @dpkprod. Par Facebook, www.facebook.com/dpkprod. Ou via le site internet www.dpkprod.eu.